France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la catastrophe du téléphérique de Vaugeanny, ou comment la folie de l'or blanc s'est emparée d'un village de montagne. Le vendredi 13 janvier 1989, un peu avant 19h, 8 jeunes techniciens montent à bord du téléphérique du Dôme des Rousses. L'inauguration de cet équipement est prévue pour la semaine suivante, juste avant l'arrivée des vacanciers. C'est un événement pour la commune alpine de Vaugeanny et ses 242 habitants. Ce téléphérique, imaginé pour être le plus grand du monde, doit permettre de relier Vaugeanny au grand domaine de l'Alpe d'Huez pour transformer ce village de paysans en station de ski internationale. Mais en ce soir d'hiver 89, l'histoire déraille. Les 8 jeunes techniciens, pour la plupart des enfants du pays, n'atteindront jamais la gare d'arrivée du téléphérique. Au point le plus haut du parcours, à 200 mètres au-dessus du vide, la cabine numéro 2 se décroche et s'écrase au fond de la vallée. Qui sont les responsables d'un tel drame? Tellement symptomatique d'une époque, celle des années 80, où le mirage économique des vacances d'hiver aveugle certains montagnards devenus ivres d'argent et de pouvoir, quitte à se croire au-dessus des lois. Notre invité aujourd'hui, Philippe Descamps, journaliste au Monde Diplomatique, spécialiste de la montagne et auteur d'un livre sur le système carignon. Il a enquêté sur les origines de la catastrophe de Vaugeanny. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Raphaël Pueyo, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Décembre 1991, Vaugeanny, au cœur des Alpes. L'ambiance est à la fête ce samedi matin dans ce village de montagne perché à 1250 mètres dans le massif de l'Oisan. À quelques jours seulement des fêtes de Noël, le maire s'apprête à inaugurer une nouvelle mairie, une salle des fêtes et l'office du tourisme. Carton plein. Sur la place du village, l'ambiance est conviviale. Les habitants grignotent des petits fours, aux côtés de touristes belges et néerlandais. Et dans la foule, une équipe de France 3 Grenoble est là pour couvrir l'événement.
Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, cette inauguration?
Je pense que c'est l'œuvre de beaucoup de choses. Et puis, c'est une station qui est en train de se développer.
Aujourd'hui, c'est une merveille, oui, ici. On s'amuse bien.
Bonjour, madame. C'est la fête?
Je pense, j'espère que c'est la fête.
C'est aussi oublier certains souvenirs?
C'est pas les oublier, de toute façon. Mais c'est vivre avec.
La réponse de cette habitante traduit bien le malaise qui couve ce jour-là, à Vaugeanny. Et tous les jours d'ailleurs, car en réalité, derrière les sourires, les trompettes et les petits fours, tous ont en tête le drame survenu 2 ans plus tôt, presque jour pour jour, à seulement quelques mètres de la place du village. Oui, tous ont en tête les visages d'Éric, Joël, Louis, Denis, Jacques, Stéphane, Jean-Marc et Christophe. Les 8 techniciens qui ont trouvé la mort dans la catastrophe du téléphérique des Rousses, un vendredi 13 de l'hiver 89. Malgré le drame, les touristes continuent d'affluer à Vaugeanny. La vie continue. La plupart ont oublié la catastrophe. Certains n'en ont même jamais entendu parler. Mais le village, lui, reste profondément meurtri, divisé même. D'un côté, l'équipe municipale menée par le maire, Raymond Basset, tente de se tourner vers l'avenir. Un avenir qui doit être assuré par le téléphérique, pour lequel la commune s'est endettée à hauteur de plus de 200 millions de francs. De l'autre, des voix s'élèvent pour critiquer cet investissement. Quant aux familles des victimes, baladées d'expertise en contre-expertise, elles continuent de se battre pour que les responsables de cette catastrophe soient enfin condamnés. Situation qui ressemble furieusement au combat du pot de terre contre le pot de fer. Alors rembobinons. Nous sommes le 11 janvier 1951, à quelques kilomètres seulement de Vaugeanny, sur les pentes enneigées de l'Alpe d'Huez. Ce jour-là, les meilleurs skieurs du moment sont présents, chaussures de cuir aux pieds fixées à de grands skis de bois. Dans la foule de curieux venus assister à ce spectacle d'un genre nouveau, une caméra est plantée dans la neige.
Dans l'admirable et blanc paysage de l'Alpe d'Huez, les concurrents de la classique coupe Livasic livrent un assaut combiné au chronomètre et aux lois de l'équilibre. Le champion de Paris, Guy de Huertas, dans le slalom géant, fait preuve de sa virtuosité habituelle. Pence va un peu moins vite. Et le Parisien Guy de Huertas peut savourer déjà sa première victoire.
Dans ces années d'après-guerre, le ski est roi en France. C'est le début de la ruée vers la neige. Et l'Alpe d'Huez compte bien en profiter. Aidé par des investissements massifs de l'État, l'Alpe devient, à la fin des années 60, une station de renommée internationale. Fréquentée par les touristes, hiver comme été. Altiport flambant neuf, téléphérique dernier cri, piscine chauffée en plein air. L'Alpe est même l'une des stations les plus prisées d'Europe. Choisie pour accueillir les épreuves de bobsleigh des prochains Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. En noisant, l'opulente réussite de cette station déjà prestigieuse crée des jalousies. Car même après d'immenses investissements consentis par l'État dans le cadre du plan neige, initié en 64 pour moderniser les stations existantes et en créer de nouvelles, certains villages de montagne restent coupés de tout, à l'image de Villars Reculas. Vous apprécierez l'adéquation du patronyme avec la situation. Grand oublié de la ruée vers l'or, ce cliché, ce souverain poncif.
À quelques centaines de mètres en contrebas de la station d'Alpe d'Huez et sous les regards indifférents des skieurs, un petit village. Son nom, Villars Reculas, en dit plus qu'une longue histoire. Le passé, c'est le souvenir d'une certaine prospérité, et pour l'ancien maire, M. Chalvin, le présent se résume brièvement.
Oh, vous savez, on vit. Faut pas dire qu'on vit dans ces villages-là, on végète.
Au début des années 70, un autre village de Loisan connaît un sort analogue. C'est Vaujany. 10 000 hectares de pente abrupte en pleine montagne, des sommets qui culminent à près de 3 000 mètres, et au milieu, un minuscule hameau composé de vieilles bâtisses fatiguées. Tout comme Villars Reculas, Vaujany est resté pauvre et n'a pas su imiter sa grande sœur, l'Alpe d'Huez. Oh, il y a bien un petit téléski à la sortie du village, mais il n'attire que les gamins du coin et quelques écoliers venus de Grenoble. C'est simple, l'économie de la commune repose encore sur le travail au champ, la traite des vaches et le pâturage, l'été, au pied des chalets d'alpage. Une époque au doux parfum pastoral, une époque désormais révolue, dont se souvient l'enfant du pays, Pascal Basset, au micro de Télé-Grenoble.
On montait les vaches, les poules, les lapins, les cochons. On vivait dans la ferme complètement. On faisait le foin, les parents restaient en bas parce qu'il y avait soit le blé à faucher, soit les commençaient à piocher les pommes de terre. Ils avaient toujours quelque chose à faire dans la ferme du bas. Et nous, on faisait la ferme du haut. Et l'agriculture de montagne était vraiment très, très rude chez nous. Hein.
Il est clair que l'agriculture de montagne, qui a permis à des générations de paysans de vivre de leurs terres, ne peut rivaliser avec la culture intensive des fermes ultramodernes. Et puis, les jeunes ne veulent plus de cette vie-là. L'âpreté du travail, les hivers sans fin. Lentement, mais sûrement, l'exode rural vide Vaujany de ses habitants. À tel point qu'en 75, la commune ne compte plus que 200 habitants, 5 fois moins qu'avant la guerre. L'école a fermé ses portes et le plus jeune habitant du village a 60 ans. Vaujany sort des pattes des cimes et donc condamné à disparaître. Mais un miracle va venir bouleverser le destin des paysans de Loisan. Ce miracle tient en trois lettres, EDF. Au printemps 76, un hélicoptère survole le massif de Loisan. À bord, des géologues, des ingénieurs, armés d'outils de mesure et de bâtons de dynamite. Leur employeur, EDF. Leur mission, trouver un emplacement assez vaste, capable d'accueillir le plus grand barrage hydroélectrique d'Europe. Subitement, l'appareil plonge dans la vallée de l'Odol, dépasse le village de Vaujany et, après avoir sillonné entre deux falaises, débouche sur une grande vallée verdoyante. L'ancienne vallée glaciaire, traversée par le torrent de l'Odol, fait figure de candidate idéale. Quelques mois plus tard, le site est finalement choisi pour accueillir le plus grand barrage hydroélectrique d'Europe, baptisé Grand Maison. Au printemps 78, les premiers bulldozers arrivent sur la zone.
Coincé entre les neiges éternelles de Belledonne et des Grandes Rousses, voilà déjà 5 ans que la vallée de l'Odol est livrée aux bâtisseurs de barrages. Des millions de mètres cubes de remblai retiendront d'ici 2 ans 105 hectomètres cubes d'eau. Au total, ce seront des dizaines d'hectares qui seront engloutis. Ce sera tant pis pour la vallée de l'Odol, mais ce sera tant mieux pour les consommateurs que nous sommes.
Les paysans du village observent de loin ce curieux manège, sans se douter que leur vie est en train de changer. Détail capital, le barrage est construit en grande partie sur les terres de Vaujany. Une fois le chantier terminé, EDF devra donc verser à la commune une taxe foncière annuelle de plus de 20 millions de francs, l'équivalent de 3 millions d'euros. L'un des villages les plus pauvres de France devient ainsi l'un des plus riches. Au début des années 80, avant même la fin du chantier et les premières taxes foncières, certains paysans du village voient déjà les premières retombées du barrage de Grand-Maison. Car pour mener à bien son projet, et pour ne pas se mettre à dos la population locale, EDF rachète des terrains à prix d'or. En quelques mois, certains habitants de Vaujany passent de l'extrême pauvreté à l'opulence. Dans le livre « Tourbillon dans l'Odol », écrit en 1994 par Christine Hack, une habitante raconte.
Les gars d'EDF avaient un processus bien rodé pour convaincre les gens du coin. Ils allaient chez le grand-père, ils buvaient le génépi, ils discutaient du genre « alors ça se passe bien cette retraite ?» Et à la fin, ils repartaient avec la promesse de vente signée. Et le grand-père, eh bien, il ne savait même pas quelle parcelle il avait vendue. Et puis, bien sûr, ils nous disaient tous que le barrage allait créer de l'emploi et sauver la vallée.
Dans les années 80, on peut lire dans les journaux « Vaujany, le nouveau Koweït sur Isère ». Son maire, Raymond Basset, un paisible artisan à la retraite, devient du jour au lendemain l'émir de l'Oisans. Alors, que faire de tous ces millions ? Assis sur le trésor du barrage, le maire de Vaujany se met à rêver. Pourquoi ne pas rejoindre le club select des stations de ski internationales ? Pourquoi ne pas imiter sa grande sœur, l'Alpe d'Huez ? Raymond Basset ne s'en rend peut-être pas compte, mais il vient de contracter une maladie bien connue des montagnards, la fièvre de l'or blanc. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le drame du téléphérique de Vaujany.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Donc, Vaujany a de l'argent. Et le maire de l'Alpe d'Huez a une idée. Il se dit que Jean-Guy Cupillard, seigneur autoproclamé de l'Oisans, baron local, notaire grenoblois, trésorier du RPR et vice-président du conseil général de l'Isère, a tout à gagner dans le développement de Vaujany. Et ça tombe bien. Les centaines de kilomètres de pistes de l'Alpe d'Huez ne lui suffisent plus, il lui en faut toujours plus. Il rêve ainsi de créer le plus grand domaine skiable au monde en reliant non seulement Vaujany, mais aussi toutes les stations de l'Oisan. Sourire, blanc Colgate et lunettes Ray-Ban sur le nez, il ne cache pas ses envies de grandeur face aux caméras de France 3 Grenoble.
Je pense que grâce au travail de tous, nous arriverons à obtenir les autorisations nécessaires pour avoir le plus grand domaine skiable. Nous aurons donc la chance d'avoir 3 glaciers et de skier d'une altitude de 3600 mètres jusqu'à 1300 mètres d'altitude. Alors je pense que pour les milliers de touristes, les centaines de milliers de touristes français et étrangers qui viennent chaque année, eh bien ceci sera véritablement fantastique d'avoir un domaine skiable et des équipements comme nous le découvrons un peu plus tous les jours.
Pendant des mois, Jean-Guy Cupillard va tout faire pour convaincre le maire de Vaujany d'investir son trésor dans une station de ski luxueuse. Il vient même le voir en hélicoptère, avec, dans son attaché-case, des plans bien précis. Son idée, construire le plus grand téléphérique du monde pour relier en moins de 12 minutes le village de Vaujany au grand domaine de ski de l'Alpe d'Huez. Ce projet démesuré a tout pour séduire le maire, et au début des années 80, Jean-Guy Cupillard et Raymond Basset sont confiants. Ils restent persuadés du bien fondé de cette nouvelle superstation. Mais rapidement, le ciel s'obscurcit. Par deux fois, une commission d'experts rejette leur projet, pointant du doigt le risque d'avalanche inhérent à la situation géographique de Vaujany, mais surtout, le risque de dérive des finances publiques. Car pour réaliser son rêve, Vaujany va devoir emprunter plusieurs centaines de millions de francs en attendant le versement de la taxe foncière par EDF. Les deux hommes ne s'avouent pas vaincus. En 85, grâce aux lois de décentralisation, les comités massifs composés d'élus locaux remplacent les experts qui ont dit non deux fois au projet de Cupillard et Basset. Du pain béni pour les maires de Vaujany et de l'Alpe d'Huez, parce qu'ils connaissent du monde. Et ça va faire pencher la balance de leur côté. Le 5 mai 86, après deux refus successifs, la demande du maire de Vaujany devant le comité massif passe comme une lettre à la poste. Il ne manque plus que l'aval du préfet de région, Gilbert Carrère. Jean-Guy Cupillard se tourne alors vers un ami de longue date, Alain Carignon, maire RPR de Grenoble et ministre de l'Environnement. Pendant des semaines, Carignon va faire pression sur le préfet pour s'assurer de sa validation. Le 3 juin 86, le travail de sable de Cupillard et Carignon porte ses fruits. Les plans de la future station sont acceptés. La loi Montagne, votée un an plus tôt, qui prévoyait pourtant la fin des superstations et une meilleure protection de l'environnement, est déjà dévoyée. Quelques mois plus tard, dans une interview donnée à l'Express, le maire de l'Alpe d'Huez lance fièrement « J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que le projet aboutisse. Je n'ai pas de raison de le cacher ». Quant à Alain Carignon, alors ministre de l'Environnement, rappelons-le, il se défend d'avoir exercé toute pression dans les colonnes du Monde.
Il faut prendre garde à un aménagement trop intensif de l'espace alpin. L'action que je mène pour assurer la sauvegarde des sites, en dépit de toutes les oppositions et les données économiques nouvelles, doivent contribuer à limiter l'urbanisation et l'équipement de la montagne. L'objectif des parcs nationaux est bien, en premier lieu, la protection absolue et la gestion de ces espaces exceptionnels. Il existe en montagne des lieux et des espèces à protéger de façon durable. Mais tout en assurant leur protection, nous devons les ouvrir largement au public. Cela réclame de ma personne une rigueur absolue.
Nous sommes maintenant en 1987. La station de Vaujany peut donc sortir de terre. Mais un dernier obstacle va se dresser devant Jean-Guy Cupillard et Raymond Basset, les associations de protection de l'environnement et le club alpin français. Ni l'un ni l'autre ne veulent de cette énième station qui va défigurer un peu plus la montagne. Au-delà des méga chalets pour les touristes, la construction du nouveau téléphérique vers l'Alpe d'Huez prévoit en effet la destruction pure et simple d'un site naturel à 2000 mètres d'altitude. Les associations déposent donc plusieurs recours devant le tribunal administratif de Grenoble. Mais c'est sans compter sur l'éternelle fougue de Jean-Guy Cupillard, car le seigneur de l'Oisan a plus d'un tour dans son sac. Il sait que les lenteurs de la justice jouent en faveur du projet. Alors, pour prendre de court les écologistes et le tribunal, le maire de l'Alpe d'Huez décide de faire appel au géant des remontées mécaniques, le français Pomagalski. Il connaît bien son patron, Jean-Pierre Catiard, un homme de défi, ancien entraîneur de l'équipe de France de ski. Catiard l'assure, la construction du téléphérique sera terminée en moins d'un an, juste à temps pour les vacances d'hiver de la saison 89. Bien, les deux hommes se serrent la main. Et avant même l'obtention d'un permis de construire en bonne et due forme, les équipes de Pomagalski posent les premières fondations du téléphérique. La décision du tribunal peut attendre, les engins entrent en action. Noël 88, c'est l'effervescence à Vaujany. Tout le monde s'affaire pour préparer l'arrivée des premiers touristes. Dans la gare de départ du téléphérique, les techniciens se veulent rassurants à quelques jours de l'inauguration officielle. Les deux télécabines viennent de passer les derniers tests de charge haut la main, plus de 13 tonnes, sans encombre. Devant les caméras de France 3 Grenoble, l'opération de communication est bien ficelée. Tout est fait pour vanter les systèmes de sécurité brevetés par Pomagalski.
À Vaujany, on met les bouchées doubles avant la saison. En moins d'un an, on y a construit l'un des plus grands téléphériques du monde. Sorti des usines Poma, il fait partie des 130 mises en service de nouvelles remontées mécaniques qui subissent actuellement les essais de réception.
Toutes les 250 heures, nous décablons les deux cabines et nous avons sur ces appareillages l'image exacte des défauts éventuels qu'on peut avoir sur les câbles. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent, plus précis, et ça permet d'avoir une sécurité quasi totale du câble tracteur.
Vendredi 13 janvier 1989, une semaine jour pour jour avant l'inauguration du téléphérique. Il est 18h45. Vaujany est plongé dans le noir. Au-dessus du village, à plus de 2000 mètres d'altitude, 8 jeunes techniciens âgés de 18 à 31 ans entrent dans la télécabine numéro 2. Pour certains d'entre eux, c'est un repas de famille qui les attend en bas après une longue journée de travail. Pour d'autres, la promesse d'un repos bien mérité. Donc tout va bien. Les portes se ferment, puis la benne, d'une capacité de 160 places, s'amorce tranquillement sa descente. À 18h50, le téléphérique se trouve au point le plus haut du parcours, tout proche de la gare d'arrivée de Vaujany. Quand soudain, une étincelle jaillit dans la nuit. La suite, c'est Claude Nédot qui la raconte sur France Inter.
On en parlait déjà comme du téléphérique le plus long du monde, mais hier en fin d'après-midi, l'inexplicable et encore inexpliqué s'est produit dans la petite commune de Vaujany, sur le domaine de l'Alpe d'Huez. Une des deux cabines s'est décrochée et s'est écrasée dans un ravin après une chute de plus de 200 mètres. À l'intérieur, 8 techniciens qui effectuaient des essais avant l'ouverture au public. Le téléphérique devait être officiellement inauguré samedi prochain. Seule la cabine s'est en effet écrasée au fond de la gorge, alors que le chariot, qui est l'élément le plus fragile du système, ne s'est pas décroché et resté en place sur le câble.
À Vaujany, c'est la sidération. Dans l'église du village, transformée en chapelle ardente, les familles des victimes vivent un calvaire. Au centre de la nef, 8 corps, recouverts d'un linceul blanc. Tous sont méconnaissables, défigurés par le choc. Dans le documentaire de Xavier-Marie Bonneau, Les morts de l'or blanc, Monique et Alain Rousset, les parents d'Éric, l'une des victimes, se souvient de cette nuit d'horreur.
On m'a mis devant un corps, enfin, on voyait rien, on m'a dit, il est là. 10 minutes après, on me dit, il est là. La troisième fois, j'ai dit, stop, on arrête. Éric n'est pas là.
La gendarmerie a fermé l'église et nous sommes retrouvés dans Vaujany, où il n'y avait plus personne, un grand silence. Et toute la nuit, je suis resté là-haut. Il n'y a absolument personne dans le village. Je peux dire un village complètement mort.
Sur place, les journalistes sont présents en nombre. Jean-Pierre Catiard, le PDG de Pomagalski, se refuse à tout commentaire devant les caméras. Le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Guy Cupillard, hagard, fixe le chariot du téléphérique resté accroché au câble. Quant à Raymond Basset, le maire de Vaujany, il se contente de répondre aux journalistes. Accident malheureux, faute du constructeur, voire sabotage, toutes les hypothèses sont étudiées par les enquêteurs.
C'est surtout la vie jeune qui vient de mourir là. Pour moi, c'est quelque chose d'effroyable. Effroyable. C'est comme si j'avais perdu toute ma famille. Faites-moi confiance, j'ai 62 ans et j'ai pleuré comme un enfant.
Pour vous, la saison est foutue ?
Non, mais c'est pas la saison, c'est pour les morts. Moi, la saison, je n'ai rien à foutre, mais moi, c'est... La benne aurait tombé seule, c'était différent, mais là...
Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, aux familles, mais elles n'en ont rien ? C'est tous des familles du coin ?
Il y a des familles du coin, oui, qui sont pas loin, quoi. Mais je me mets à leur place, disons que ce soir, j'ai déjà pleuré pour eux.
Vous aviez su le téléphérique ?
Finalement, si on partait sans ce principe, on ferait jamais rien, quoi, mais enfin, c'est une catastrophe, hein, c'est...
Dans les jours qui suivent la catastrophe, malgré une intense campagne de communication du constructeur, les langues se délient à Vaujany. Des techniciens racontent avoir entendu des bruits suspects à bord du téléphérique. Mais surtout, ils pointent du doigt les cadences infernales d'un chantier où des désaccords étaient nombreux entre le maître d'œuvre et les cadres de Pomagalski et où les règles élémentaires en matière de sécurité n'étaient pas respectées. Le 18 avril 89, un premier rapport est rendu public. Les experts sont unanimes. La résistance des vis et des goupilles de l'axe du téléphérique a été mal calculée par les ingénieurs de Pomagalski, révélant une grave méconnaissance des règles de base de l'élasticité des matériaux, est-il mentionné. Pire encore, les experts découvrent que le leader mondial des remontées mécaniques a copié aveuglément un système d'accroche inventé par un constructeur suisse, système en réalité défectueux. Le rapport s'interroge aussi sur la précipitation du constructeur, qui a réalisé les travaux en à peine 6 mois, alors que ses concurrents directs, eux, qui avaient répondu à l'appel d'offres, prévoyaient 2 ans minimum pour réaliser un tel projet. Enfin, les experts n'épargnent pas la responsabilité de l'État dans ce drame. Ils montrent que le service chargé du contrôle des remontées mécaniques s'est contenté d'examens partiels. À la lecture de ce rapport, les familles de victimes sont révoltées. Elles découvrent que l'incompétence et la précipitation de quelques-uns, grisés par la pas du gain, ont précipité 8 de leurs des leurs dans le vide. Mais ce rapport n'empêche pas le maire de Vaujany d'ordonner la reprise des travaux, moins de 10 mois seulement après le drame. Nous devons bien aller de l'avant. Il y a des emplois à maintenir. Des jeunes comptent sur nous cet hiver, se défend Raymond Bassé. Le 17 mars 90, après avoir obtenu le feu vert du préfet, le téléphérique est finalement rouvert au public. Des touristes et quelques journalistes participent à cette inauguration officieuse et sans fanfare. Dans la matinée, la cabine numéro 2 s'élance de Vaujany avec à son bord près de 160 personnes. Et là, fait irréel, le téléphérique s'arrête brutalement à l'endroit même où le drame s'est produit un an plus tôt. Alors imaginez, à l'intérieur, c'est le grand silence. Les passagers se figent et se regardent. Tous ont en tête les images de la cabine pulvérisée en bas, là, au fond de la vallée, 200 mètres plus bas. Mais après quelques secondes en apnée, le téléphérique redémarre. Ce jour-là, la cabine numéro 2 atteint sans encombre le sommet du Dôme des Rousses. Dans le reportage d'Antenne 2 diffusé le soir même, on ne retrouve aucune mention de cet incident. Non, le journaliste préfère vanter la modernité du téléphérique.
Une mise en service sans incident et sans cérémonie. Le téléphérique de tous les records de Vaujany a transporté aujourd'hui ses premiers clients. Des vacanciers confiants à bord d'une cabine rapide, silencieuse, confortable.
Ah, moi je suis assez impressionné par la rapidité du voyage.
Le confort.
Le confort, la beauté du site, le peu de secousses aussi de cet engin.
Les responsables de Vaujany et de l'Alpe d'Huez insistent sur la sécurité retrouvée, notamment grâce à un nouveau verrouillage de l'axe porteur qui relie la cabine au chariot de traction.
Nous avons emprunté 170 millions pour faire cet engin, et finalement maintenant il faut le faire tourner. Hein, pour 170 millions, je crois qu'on est obligé de le faire tourner.
Dans la vallée de l'Odol, les habitants semblent résolus à tourner la page de la catastrophe. Seules les familles des 8 victimes, désormais regroupées en association, continuent de maintenir la flamme du souvenir. Oui, chaque année, elles organisent une commémoration à Vaujany. Ce 13 janvier 91, 2 ans après le drame, elles font bloc autour de leur présidente, Muriel Anfou, dans l'attente d'un hypothétique procès.
Après plusieurs mois d'enquête, le scénario de la catastrophe a été retracé par les experts. Mais les familles des victimes ne demandent pas seulement la vérité, elles demandent aussi la justice.
C'est vrai qu'il y a des intérêts économiques énormes derrière. On est à moins d'un an des Jeux Olympiques. Nous, de toute façon, pour modeste qu'on soit dans l'association, on a toujours dans l'objectif que la justice soit rendue. Ça prendra 4 ans, 5 ans s'il le faut, mais on sera toujours déterminé à aller jusqu'au bout.
Lundi 9 septembre 86, tribunal correctionnel de Grenoble. Il aura donc fallu attendre 8 ans. 8 longues années d'une instruction chaotique pour aboutir enfin à un procès. Le dossier d'instruction est titanesque. 4 rapports d'expertise et de contre-expertise, pour autant de recours et d'annulations liées à des vices de procédure. Mais tous pointent les mêmes responsabilités, celle du constructeur du téléphérique, Pomagalski. Sur le banc des prévenus, poursuivi pour homicide involontaire, Jean-Pierre Catiard, le patron de Pomagalski. À ses côtés se trouvent 2 de ses ingénieurs, le maître d'œuvre ainsi que l'ingénieur en chef chargé du contrôle des remontées mécaniques. Pendant 3 jours, des bataillons d'avocats et d'experts s'affrontent sur un terrain très technique, plus précisément sur les goupilles de l'axe du téléphérique. Pomagalski attaque et se défausse sur un sous-traitant qui réplique en indiquant que les pièces ont été conçues en respectant scrupuleusement les calculs fournis par le constructeur. En gros, c'est pas moi, c'est lui. Quant à l'avocat des parties civiles, Maître Prudhomme, il tient à ramener un peu d'humanité dans un procès où les victimes sont passées au second plan.
D'un côté, Vojani voulait son téléphérique au plus vite, avant le début de la saison de ski. De l'autre, Pomagalski tenait un bon client. Les délais intenables, fixés par Vojani, étaient comme une épée de Damoclès qui pesait sur la tête de chacun, des sous-traitants jusqu'au service de l'administration. Cette épée est finalement retombée sur la tête de 8 salariés innocents. On en revient toujours à la même chose. Le temps et l'argent. L'argent et le temps.
Le 11 septembre 1996, dans son réquisitoire, le procureur réclame des peines allant de 10 à 18 mois de prison, dont 6 fermes, accompagnées d'amendes de 30 000 francs. Le 21 octobre, le tribunal rend son jugement.
La société Pomagalski, qui avait construit le téléphérique, qui s'était décroché, est jugée responsable, mais ses patrons et ses ingénieurs ne feront pas de prison ferme. Les juges les ont condamnés à des peines de prison avec sursis. Du sursis pour un accident qui a fait 8 morts, alors que les juges reconnaissent que l'installation du téléphérique était un dangereux bricolage. À l'annonce du jugement, les familles de victimes ont laissé éclater leur colère. Écoutez Véronique Moreau, elle a perdu son frère dans la catastrophe.
Ils n'ont même pas eu le courage une seule fois de nous regarder dans les yeux. Ils n'ont jamais nous ont adressé la parole. Ils auraient pu déjà, le premier jour où ça s'est produit, venir et s'excuser. Rien que des excuses, rien que si c'était excusé le premier jour, déjà tout ça, ça se serait passé un peu plus calmement.
Et vous avez attendu 8 ans pour ça ?
Oh, 8 ans, oui. Et on attend toujours et on espérait aujourd'hui. Vraiment, moi, j'espérais que la justice fasse son travail. Et là, c'est vraiment se foutre de nous. Hein. C'est vraiment les féliciter pour ce qu'ils ont fait.
Si vous allez aujourd'hui à Vojani, vous ne trouverez pas le logo de Pomagalski qui trônait autrefois fièrement dans la gare du téléphérique. Dans le musée consacré à l'histoire du village, vous ne trouverez aucune mention du 13 janvier 89. Vous ne trouverez pas non plus de plaque commémorative dans le centre. Une stèle lui a été préférée, en contrebas, le long d'une route déserte qui mène à la déchetterie. Comme si la mairie voulait cacher cette part sombre de son histoire, celle d'innocents sacrifiés sur l'autel de l'or blanc. Seule une sculpture, construite face au barrage EDF qui a fait la richesse de Vojani, vient rappeler la catastrophe. Sur ce mémorial d'aluminium et de titane sont gravés ces mots. C'était une nuit, c'était beaucoup de bruit, puis le grand silence.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la catastrophe du téléphérique de Vojani. Notre invité Philippe Descamps. Bonjour.
Bonjour.
À Grenoble. Vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends, très
parfait,
bien.
Parfait, parfait. Donc vous êtes journaliste au Monde Diplomatique aujourd'hui, spécialiste de la montagne. Vous étiez à l'époque journaliste à France 3 à Grenoble et vous avez suivi le feuilleton judiciaire qui a suivi la catastrophe de Vojani ainsi que le procès en 1996. D'abord, si vous le voulez bien, parce que on ne va pas dire que les victimes ont été complètement oubliées, mais elles n'ont pas été mises sur le devant de la scène judiciaire, les 8 victimes, Éric, Joël, Louis, Denis, Jacques, Stéphane, Jean-Marc et Christophe, Qui étaient-ils de ce que vous en savez ?
Bah, ils étaient déjà tous jeunes. Hein. En fait, ils avaient été tous dans la vingtaine. Je crois que le plus âgé avait 30 ans ou 31. Et le plus jeune n'avait que 18 ans. C'était un enfant du pays, Stéphane Manin. Comme deux autres victimes, les autres étaient en fait venus en Oisans pour travailler. On sait que l'un venait se marier, l'autre était déjà père de deux filles. Mmh. Voilà ce que j'en sais.
Alors on va revenir au procès. Le procès qui a eu lieu à Grenoble, donc en septembre 96. Quelle était l'atmosphère puisque vous y étiez ?
Alors, d'abord, j'ai un souvenir d'un décalage très fort entre les familles qui attendaient de la compassion, des excuses, un minimum de considération, et les prévenus qui étaient très froids, assez calculateurs, en fait. Ils ont joué la montre pendant des années, hein, votre émission l'a montré, en demandant à leurs avocats de multiplier les procédures pour retarder le procès. Mais mon souvenir le plus frappant, c'est celui d'une vidéo que la défense a voulu projeter, en fait, et a projeté grâce à l'autorisation des magistrats. Alors là, c'était un cynisme assez incroyable, parce que, alors que les expertises étaient accablantes pour le constructeur, celui-ci donnait une version un peu fantaisiste, mais bien filmée, on avait un documentaire bien léché, laissant croire en fait à la responsabilité d'un sous-traitant, voire à la fatalité, au pas de chance, alors qu'on sait que c'est pas du tout le dossier, quoi.
Ouais, le sophisme comme arme de défense. Mais alors pourquoi les maires de l'Alpe d'Huez et de Vaujany, hein, Jean-Guy Kipillard et Raymond Basset, qui ont pourtant joué un rôle essentiel dans la catastrophe, on l'a vu, par leur décision ils ont joué un rôle essentiel, n'étaient pas dans le box des accusés?
Bah, le procès de 96 concernait que l'accident, les aspects techniques, la responsabilité directe du constructeur et indirecte du contrôleur, pas vraiment la dimension de contexte, en fait, de ruée de verre blanc que vous avez bien décrite tout à l'heure, ni cette course de la montre contre la montre qui a été lancée là, contre l'annulation, dans la peur de l'annulation de l'autorisation donnée par le préfet, quoi. En revanche, le maire de Vaujany, Raymond Basset, son secrétaire général Alphonse Faure et surtout Jean-Guy Kipillard ont été poursuivis par la suite et condamnés dans le cadre des affaires politico-financières qui ont été très importantes dans la région, ce que l'on appelait les affaires grenobloises ou les retombées du système Carignan.
Voilà, Carignan.
Kipillard, lui, le maire, le maire de l'Alpe d'Huez, lui, était aussi trésorier du RPR, vice-président du conseil général chargé des routes. Ouais. Il a été poursuivi surtout pour avoir organisé une sorte d'entente en fait, entre les entreprises du BTP afin de répartir des marchés publics, les mêmes entreprises, eh bien, était aussi très généreuse avec l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez, voire avec lui-même, puisqu'il a pu en tirer des avantages personnels indirects. Et durant l'instruction, ce qui était, dans ma mémoire, je me souviens d'un épisode assez important, c'était durant l'instruction de ce volet financier, il y a eu un moment de tension très forte en fait, au tribunal de Grenoble, car l'ensemble des magistrats, à l'exception d'un seul, étaient vraiment en colère, parce qu'ils ont découvert que leur patron, le procureur général, était aussi un grand ami de Kipillard, régulièrement invité à l'Alpe d'Huez, comme de nombreux journalistes d'ailleurs.
Alors, aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'on peut dire que cette catastrophe de Vaujany est l'un des symboles du système Carignan ?
Disons que c'est une dimension, le système, pour le comprendre, c'était quelque chose qui n'avait en fait jamais été jugé en tant que tel. Ça, c'est faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire Delot a été jugée, Jean-Guy Kipillard a été jugé, mais le système lui-même n'a jamais été vraiment complètement démonté, puisqu'il était vraiment complexe, en fait. C'est un système qui était basé sur le système de financement de la vie politique, qui à l'époque n'était pas régulé par des lois, et qui a été en fait, qui bénéficie à tous les partis, et qui a été détourné massivement, en fait, à des fins personnelles par les hommes forts du département Carignan, Névache ou Kipillard. Mmh. Et il faut voir aussi qu'à l'époque, on avait aussi le cumul des mandats, ce qui est moins vrai aujourd'hui, et à l'époque, Carignan était vraiment l'homme fort, c'est-à-dire qu'il était maire de Grenoble, mais aussi président du syndicat d'agglomération, président du conseil général, et ministre de l'environnement. Vous voyez que le préfet à côté, il pesait peu.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, la décision du préfet intervient 3 mois après la nomination d'Alain Carignan au ministère de l'Environnement.
Tiens donc.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Philippe Descamps, ce qu'on appelle l'or blanc, ce sont grosso modo les profits économiques tirés du tourisme hivernal. Bon, c'est un peu cliché, un peu comme l'or noir, le pétrole, mais peu importe. Peut-être que la menace la plus importante sur l'or blanc, c'est le manque de neige, le dérèglement climatique. Mais est-ce que l'accident de Vaujany a marqué la fin de la ruée vers la neige ?
Pas vraiment.
Pas touristiquement, d'un point de vue des investissements.
Des investissements, les investissements ont continué en fait. Hein. Mais en revanche, ça marque un tournant parce que en fait, à la fin des années 80, le plan neige dont vous avez parlé tout à l'heure, on constate que c'est un demi-échec, en fait. On a construit beaucoup de stations, notamment en site propre, ce qui est propre à la France, beaucoup de béton, en fait. Et le public plafonne. Il y a que 8% des Français qui partent à la neige. Et depuis, on n'a pas fait mieux, en fait. Et pour capter ce public, c'est ce qui explique un petit peu, là, aussi, la catastrophe. On est allé chercher une clientèle à l'étranger et on s'est lancé dans une sorte de communication, débridée, une course au gigantisme. Il faut afficher des kilomètres de piste, en fait. C'est un peu ce qui se passe pour l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez voit l'opportunité de se rejoindre, d'être rejoint par Vaujany pour simplement afficher sur la publicité qu'il y a plus de kilomètres qu'à côté, quoi, que les concurrents.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans le récit, on a entendu une archive de Jean-Guy Cupillard, le maire de l'Alpe d'Huez, qui parlait au début des années 80 de son rêve, relier toutes les stations de l'Oisans afin de créer le plus grand domaine du monde. Est-ce que son rêve est devenu réalité? Parce qu'il me semblait que le plus grand domaine, je me trompe peut-être, hein, c'était les Trois Vallées dans la Tarentaise.
Oui, alors, tout le monde concurrence. Maintenant, il y a aussi la liaison entre les Arcs et la Plagne qui fait que cette... plus grande, mais c'est juste une liaison artificielle, c'est juste un câble en fait qui unit et qui fait les kilomètres que l'on additionne. Alors le projet de Jean-Guy Cupillard ne s'est pas réalisé complètement, il y a eu des morceaux qui ont été réalisés, le téléphérique de Vaujany était reconstruit, hein, il fonctionne, il y a une autre liaison qui a été faite avec Ozan-Noisan, il y a toujours des projets dans les cartons pour relier l'Alpe d'Huez aux deux Alpes, mais pour l'instant c'est pas fait. L'attention en ce moment, elle se focalise plutôt sur l'aménagement de la Grave, qui est un site un peu à part, qui est un peu plus loin que les deux Alpes, et où aujourd'hui on ne fait que du hors-piste. Il y a un projet en cours, qui est bien avancé d'ailleurs, de gagner un peu plus d'altitude et de faciliter une liaison avec les deux Alpes. Les travaux devaient commencer là, le printemps dernier, mais ils ont été arrêtés par la présence en fait, de militants écologistes qui sont mis sur le site du chantier. Ils ont bivouaqué en fait, en altitude pour empêcher les travaux et surtout essayer de passer le message, de critiquer cette fuite en avant en fait, qui... Parce que, puisqu'il y a le réchauffement climatique, on va chercher la neige de plus en plus haut et on réduit en fait la montagne à une sorte de foire du trône, quoi, de manège qui amuse un temps et qui sont laissés ensuite à l'abandon. Quoi.
Et est-ce que la catastrophe de Vaujany, tout de même, vous savez, c'est le retour d'expérience, l'accidentologie fonctionne comme ça, a permis d'éviter d'autres catastrophes en renforçant les contrôles, la législation des remontées mécaniques?
Alors, je ne sais pas si la législation a bougé. Probablement qu'au niveau réglementaire, il y a eu des dispositions nouvelles. Alors, on sait qu'il y a un déficit de contrôle, hein, de l'administration. Parmi les gens qui ont été condamnés dans l'affaire de Vaujany, il y a quelqu'un qui travaille pour l'administration, qui n'a pas fait son travail correctement. Hein. C'est à souligner. Il y a eu d'autres accidents ensuite. Il y a eu celui du Pic de Bure, notamment. 20 morts en 99. Donc, et celui de Vaujany est peu après celui qui a été bien connu aussi, celui de Luzardiden. En 87, ça c'était un télésiège.
Absolument.
Il y a eu plusieurs. Il y en avait eu un autre aux deux Alpes avant aussi qui avait fait 9 morts. Il y a quand même une série d'accidents. On peut pas dire le plus grave étant celui de qui a eu lieu en Autriche à Kaprun, où là où on a eu en 2000 un incendie d'un funiculaire dans un tunnel et ça avait fait 150 morts.
Alors, est-ce que quelle part a pris le combat des associations écologistes dans ce dossier Vaujany?
Alors, c'était important, en fait, c'est un peu l'élément clé du dossier, parce que la précipitation du constructeur, en fait, elle s'explique par cette course contre la montre lancée afin de construire le téléphérique avant que la justice administrative ne se prononce sur le dossier. Donc, comme on l'a entendu tout à l'heure, hein, le club alpin français avait fait un recours et il a obtenu gain de cause, en fait. Le tribunal administratif a annulé l'autorisation préfectorale en 91. La décision du TA a été confirmée par le Conseil d'État en 94, mais c'était trop tard. Tout était déjà construit et rien n'a été démonté, évidemment, depuis.
Bien, on va écouter ensemble une archive de France 3 Grenoble. Nous sommes en août 1990. Le barrage de Grand-Maison a été inauguré quelques années plus tôt. Et vous allez l'entendre, certains habitants de la vallée sont très reconnaissants envers EDF.
Avec Grand-Maison, c'est toute la vie d'une vallée qui a été modifiée. Après 4 années de fonctionnement du barrage, on commence ici à envisager d'utiliser ce nouveau site à des fins autres qu'industrielles. Le plus important, le plus remarquable, se situe dans la vie, qui dans cette vallée semble renaître. On parle souvent de désertification de la montagne, on parle de villages qui se vident, de hameaux qui se meurent. Ici, c'est l'inverse. Almont retrouve des habitants, il y a de sérieux projets d'urbanisme. La boulangerie communale, par exemple, est maintenant une affaire qui tourne sans problème. Ozan-Noisan refait son église, c'est un signe qui ne trompe pas. Enfin, Villa Recula est tout simplement redevenu un vrai village.
1880, 200 habitants, 200 vaches, avec un petit cheptel à côté. Et tout marchait en autarcie et tout roulait très bien. Il n'y avait pas de problème. Et puis, jusqu'en 80, ça a diminué. Jusqu'au moment où la route que vous avez empruntée, qui vient de la vallée de l'Odol, était finie, elle s'est ouverte. Et là, hop, tout ce qu'on avait pensé, ça s'est produit, c'est tout. Et maintenant, il y a 52 permanents, mais permanents absolus, c'est vrai.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Descamps ?
Bah, c'est un discours qu'on a souvent entendu, hein, mais peut-être qu'il faut expliquer un élément qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, qui est très important. C'est que l'ensemble de l'installation, en fait, donc de barrage d'EDF, n'existe en fait qu'en un point de la production nucléaire. En fait, c'est une sorte d'immense batterie liquide. Ce que EDF appelle ça, une station de transfert d'énergie par pompage. Ouais. En fait, la nuit, les centrales nucléaires produisent trop d'électricité, dont on ne sait que faire. Ça permet de pomper l'eau du lac d'Almont en bas pour la remonter vers le barrage de Grand Maison en haut. Et pendant les heures de pointe, on fait l'inverse, c'est-à-dire que l'eau permet de produire de l'électricité grâce aux turbines qui sont sur la commune de Vaugeny. Le rendement n'est pas très bon, mais ça permet en fait de passer les jours critiques en hiver quand la demande explose en fait. Non, après, pour répondre à votre question, en fait, toujours on nous dit que c'est le seul moyen de développer, ça a été le ski alpin. Évidemment, ça joue un rôle important. Il faut savoir que le contexte a été celui de l'exode rural qui a été très fort, qui a vraiment marqué les Alpes. Après, il y avait d'autres modèles, on connaît d'autres modèles ailleurs qui ont été parfois plus performants, notamment on sait qu'en Suisse ou en Autriche, on a misé sur le développement des villages, autour des villages, plutôt que des stations en site propre. Il n'y a pas de stations en site propre ou très peu dans les Alpes autrichiennes, dans les Alpes suisses. Et surtout, on a misé sur ce qu'on appelle les lits chauds, c'est-à-dire un système hôtelier d'auberges. Alors qu'en France, on a plutôt misé sur le lit froid. Je vous expliquais, c'est l'immobilier, en fait, c'est le nerf de la guerre, en fait. Ouais. L'argent se fait par l'immobilier beaucoup plus que par les remontées mécaniques. Et ces résidences secondaires, aujourd'hui, elles sont occupées.
Oui, donc
on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, en fait, à long terme. Quoi.
On ne peut pas dire, donc, que EDF a sauvé la vallée de l'Odol.
Elle a contribué à maintenir des gens sur place, donc c'est une certaine façon d'avoir sauvé. Mais il y aurait eu d'autres façons possibles, notamment ce qu'on reproche surtout au modèle des sports d'hiver en France, c'est que tout l'argent va au ski. Alors qu'en fait, l'idée, ça serait de que l'argent soit mieux réparti sur les quatre saisons, oui. Puis développer d'autres activités que le ski. Aujourd'hui, 80-90% des investissements, ça va pour la neige, alors qu'on sait bien que c'est quelque chose qui est probablement amené à disparaître, en tout cas à se réduire.
Bien sûr, ça va changer de paradigme avec le dérèglement climatique. Toute dernière question, qu'est devenu Pomagalski ? Je veux dire, quelles ont été les conséquences pour l'activité de cette entreprise, de cette catastrophe de Vaugeny ?
Alors, je crois qu'il y a eu assez peu d'effets immédiats. La seule chose à noter, c'est que l'entreprise a été rachetée en fait en 2000 par Silberleitner, qui est une entreprise concurrente. Et après, bon, on dit que le marché est à maturité, donc là, ils envisagent plutôt de travailler dans les villes, autour des villes, en faisant des remontées mécaniques dans les villes, quoi. Voilà.
Bien, merci infiniment, Philippe Descamps, pour toutes ces précisions sur ce drame. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe de Vaugeny, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.